Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis, auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer une émission un petit peu différente des autres fois. Je n'ai pas l'auteur en face de moi, mais un lecteur amoureux de la lecture. Et nous allons parler de Sylvain Tesson. Et le titre du livre est Blanc, c'est son dernier livre paru aux éditions Gallimard. Alain Ratier, bonjour. Merci beaucoup de venir jusqu'à Radio Présence et de venir nous présenter Sylvain Tesson, qui, je crois, est un de vos auteurs favoris. Vous allez nous parler de ce livre blanc, un titre un peu étrange, on pourrait croire une histoire de peinture. Pas du tout. On pourrait le dire aussi que blanc pourrait s'appeler aussi se jeter dans le blanc, c'est évoqué dans le livre. Et maintenant, je vous laisse la parole à Alain Ratier pour que vous nous disiez pourquoi vous avez tant aimé ce livre.
Bien, tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence. Alors, le choix qui s'est porté sur blanc et sur Sylvain Tesson, je voudrais préciser en préambule que ce n'est pas par un souci d'être à la page ou un souci d'actualité, puisqu'on sait que c'est un écrivain à la mode.
Tout à fait.
Même le cinéma s'en est emparé.
Oui, tout à fait.
Avec la Sibérie et les chemins noirs maintenant. Mais même si on parle beaucoup de cet écrivain, peut-être trop d'ailleurs, je n'en sais rien, à certains de le dire, je voudrais préciser donc que ce choix a de multiples raisons.
D'accord. Donc vous allez vous livrer un petit peu, monsieur Ratier.
Je vais me livrer.
Voilà. Donc pour la première fois, chers amis auditeurs, ce n'est pas l'auteur qui parle, c'est un lecteur. Donc peut-être qu'un jour, ça sera vous qui viendrez me parler d'un livre. Donc monsieur Ratier, Alain Ratier vient nous parler de Sylvain Tesson. Je vous redonne la parole.
Voilà, alors la première raison, toute simple, c'est parce que l'on a toujours plaisir de parler, de partager avec autrui les choses que l'on a aimées.
Et je vous comprends.
J'ai beaucoup aimé ce dernier ouvrage de Sylvain Tesson, mais la plupart de ce qu'il a écrit. Donc, je voudrais préciser ce qui m'interroge chez lui, parce que c'est quelqu'un qui vous interroge. Lorsqu'on voit son parcours...
Ce n'est pas juste un romancier, alors.
Ce n'est pas un romancier, c'est parfois un journaliste qui s'investit beaucoup. On le voit actuellement pour l'Azerbaïdjan, pour l'Arménie. C'est quelqu'un qui adore l'exploit physique. On en parlera bien sûr tout au long de cette émission, mais ce besoin d'exploit physique va bien sûr bien au-delà d'une simple performance, hein, bien sûr.
Oui, ce n'est pas du tout un exploit sportif. C'est complètement autre chose, chers amis auditeurs. Vous le verrez quand vous aurez le livre entre les mains. C'est pour ça que ce livre est tellement intéressant. Il y a un exploit physique qui est en même temps lié à une certaine spiritualité. Je vous redonne la parole, Alain Ratier.
Voilà. Alors avant de parler de la spiritualité qui est grande, qui est vraiment innerve toute sa production littéraire, je voudrais revenir à son approche, si vous voulez, sa philosophie, les leçons enfin du voyage de ses pérégrinations. Alors pour Sylvain Tesson, et pour nous tous qui aimons les voyages, tout voyageur ne revient que pour repartir. Et on sait que chez Sylvain Tesson, il n'a pas refait surface à Paris, qu'il est déjà ailleurs. Alors on peut analyser de mille manières ce besoin de voyage. On peut dire que c'est une fuite.
On pourrait le croire. En réalité, en lisant ce livre blanc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment autre chose. Vous voulez nous le livrer? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de partir? En réalité, il y a besoin de se dépasser, le besoin de trouver quelque chose, le besoin de sublimer quelque chose qu'il a vécu, parce que nous n'avons pas présenté Sylvain Tesson parce que nous pensons que nos amis auditeurs le connaissent, mais Sylvain Tesson a été victime d'un énorme accident qui aurait pu le laisser complètement immobile. Et en réalité, s'il a écrit Les Chemins Noirs, c'est pour se sortir de ce terrible accident. Et donc, à travers les lectures que nous pouvons avoir de Sylvain Tesson, nous voyons qu'il se dépasse tout le temps. Et ça n'est pas un acte physique, c'est un acte, comment dire, humain, un acte de dépassement moral, un exemple. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un exemple ?
On peut le dire.
On peut le dire aussi. C'est pour ça que ce livre est très, très fort et très puissant. Je vous redonne la parole sur Sylvain Tesson et sur ce départ dans le livre.
Et de revenir donc sur sa philosophie du voyage, parce que c'est la base pour lui.
Oui.
Un voyage, c'est toujours un but. Hein, ce n'est jamais une errance chez lui. L'errance, il ne sait pas ce que c'est, même s'il a parcouru le monde, qu'il a vraiment dépassé ce phénomène où, je le répète, il n'a pas profité d'un dilettantisme de classe ou d'une aisance financière. C'est au-delà.
C'est complètement au-delà, oui, vous le confirme. Oui.
Et d'ailleurs, au début de Blanc, il dit « du voyage faire une prière ».
Ça, c'est important. Que c'est beau.
C'est beau, beau, et c'est quand même là aussi une philosophie du voyage. « Du voyage faire une prière ». Et il ajoute, le mouvement résout tout.
Oui, il dit bien ça.
Il le dit bien ça. Alors, le mouvement, ça ne veut pas dire l'agitation. Hein, mais bien sûr, le refus d'être l'esclave d'une pesanteur du quotidien et d'aller au-delà de ses limites physiques et d'une recherche spirituelle. Je voudrais d'ailleurs, à ce titre, citer un auteur bien connu et qui est très apprécié, qui s'appelle Nicolas Vanier et qui a écrit L'usage du monde. C'est vraiment le bréviaire, la Bible de tous les voyageurs en quête de spiritualité. Et Nicolas Vanier disait « Le voyage, il est fait d'abord pour une chose, pour vous rincer. » Pour vous rincer.
D'accord, voilà. Je ne savais pas.
Voilà, pour vous rincer. Donc il faut échapper à la pesanteur de la routine. On peut citer aussi, à moindre égard, Marguerite d'Yourcenar, qui à la fin de sa vie, elle avait plus de 80 ans, entreprit un tour du monde, et elle a dit, avant de mourir, je veux faire le tour de la prison. Elle a appelé ça le tour de la prison. Voilà, et elle a fait le tour du monde, sa prison, mais bon, ça veut dire aussi qu'il y avait une quête, évidemment, à approfondir. Et alors Sylvain Tesson aussi cite Paul Morand, je crois que c'est toujours dans Blanc, où il dit, alors ça c'est Paul Morand, un grand voyageur aussi devant l'Éternel, qui dit « Ailleurs est un mot plus beau que demain ». Ailleurs est un...
Très intéressant.
Ailleurs est un mot plus beau que demain.
Nous faisons philosopher nos amis auditeurs, là. Et nous allons les envoyer en voyage, les faire partir en voyage.
Je ne suis
qu'un
modeste porte-parole. Et alors,
je confirme, parce que moi, j'ai eu la même impression en lisant le livre. Donc, je vous confirme, chers amis auditeurs, que c'est vraiment un sens, à travers la lecture de ce livre, on le sent, ça. Que la richesse du voyage, voilà, la richesse et de l'effort dans le voyage.
Voilà. Alors, ça sera la dernière citation sur la philosophie du voyage, je ne veux pas en abuser, mais il faut citer le colonel Lawrence qui disait « Le nomadisme est la plus mordante et la plus profonde des disciplines sociales ». Donc, dans le nomadisme, il y a bien sûr donc ce phénomène de ne jamais rester en place. Donc, c'est la plus profonde des disciplines sociales.
D'accord.
Voilà, donc ce besoin de partir exige, au-delà de la volonté, de l'effort physique, et j'en terminerai sur cette première raison de philosophie du voyage, qui nécessite une discipline de vie.
Ah, complètement. Hein? Là, dans le livre, on le sent tout le temps. D'ailleurs, ce livre n'a pu être écrit que parce qu'il y a une immense discipline des trois personnages, une rigueur et une amitié, et le sens de l'effort en permanence.
Exactement. Donc, il n'y a pas de voyage, dans le sens de Sylvain Tesson, sans ascèse.
Ce que vous dites là est complètement en dehors de ce que pense le grand public.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc c'est le voyage selon Sylvain Tesson et selon votre opinion, que je peux partager aussi parce que c'est le sens noble du voyage.
Et donc là, je vous rejoins parce que la 16 chez Sylvain Tesson, il ne l'a pas toujours pratiquée.
Oui, nous sommes d'accord.
Et tous ceux qui ont lu Dans les forêts de Sibérie, qui est un ouvrage magnifique, d'ailleurs, on en reparlera. Mais bon, il sait très bien, lui-même s'est défini, quand il est parti passer 6 mois dans cette cabane au bord du lac Baïkal, il a dit j'étais un déprimé alcoolique. Voilà.
Il est très sincère sur lui-même.
Exactement.
Ça, c'est ça qui le rend sympathique. Non seulement il écrit très très bien, non seulement il est très cultivé, mais en même temps il est d'une grande sincérité par rapport à lui et sur les erreurs qu'il a pu commettre. Et c'est ce qui le rend encore plus attachant, d'ailleurs.
Je partage tout à fait votre avis. Et pour le citer dans cette assaise que demande toute aventure, qui est un voyage... Il précise bien, et c'est vraiment très très bien décrit, lorsque, après des journées éreintantes et délicates, puisque parfois ils se demandent s'ils vont passer sur ces barrières de glace et autres, ils arrivent dans un gîte vraiment simplissime. Et là, il dit le luxe, c'est le contraire de l'abondance.
Oui.
Et oui, oui. C'est le contraire de l'abondance, des jouissances. Et après l'effort et la peur dans la neige, il le dit, le gîte, tout simple, offre le plus absolu du luxe.
C'est vrai, et alors moi j'ajouterais, il parle du poêle à bois, et il dit le premier dieu de l'être humain, qui en fait leur permet de survivre, et dans tous ces gîtes où il arrive, dans tous ces gîtes, ce sont des refuges.
Des refuges, oui.
Dans tous ces refuges où il passe, qui en fait sont fermés parce que c'est le plein hiver, et donc en principe il n'y a personne, il dit, nous vivons comme des sportifs et comme des vieilles dames. Ce qui est très amusant parce qu'il a beaucoup d'humour aussi, un humour en demi-teinte, parce qu'ils passent leur temps à boire du thé pour se réchauffer, donc des eaux chaudes.
Pareil.
Donc dans ces refuges où parfois la température ne monte que jusqu'à 4 degrés, chers amis auditeurs, 4 degrés, ils trouvent que c'est le bonheur. Voilà, ils sont à l'abri du vent qui souffle entre 80 et 100 km/h, et dehors, parfois il fait moins 20, moins 30, et ils survivent et ils sont dans la bonne humeur. Et alors, ce qu'ils font, chers amis auditeurs, ils lisent et ils récitent des poèmes. Là, ça paraît aussi une drogue pour eux, cette lecture, cet échange intellectuel qu'ils ont entre ces trois personnages du livre. Alors, je m'excuse, monsieur Ratier, je vous prends un peu la parole. Livre est écrit par Sylvain Tesson, donc l'auteur, qui est un personnage assez incroyable, mais aussi par Dulac, qu'il appelle Dulac, et aussi par un troisième larron qu'il rencontre sur la route et qui s'appelle Rémoville, qui en fait se trouve là par hasard parce qu'il a lu Les Chemins Noirs. Alors il rencontre Tesson et Dulac en montagne, en pleine altitude, et il dit « Je suis là parce que je viens de lire un livre qui s'appelle Les Chemins Noirs et je trouve ce livre extraordinaire. » Et Sylvain Tesson lui dit « Écoutez, c'est moi l'auteur. » Alors, c'est quand même très amusant. Il n'y a pas de hasard, nous le savons tous. Comme dit Bernanos, il n'y a que des hasards qui nous ressemblent. Et donc, Rémoville va faire partie donc, de cette cordée. Ils vont être trois tout le temps pour la traversée des Alpes entre la France et l'Autriche. Voilà, donc les trois personnages sont extrêmement différents. Nous avons un intellectuel pur qui est en même temps très physique, qui est Sylvain Tesson. Dulac, qui est physique et instinctif et qui est un ami extraordinaire, et Rémoville, qui est un personnage incroyable aussi, certainement très cultivé, mais aussi un très grand chef d'entreprise, et qui téléphone à sa femme avec son portable pour savoir ce qui se passe. C'est lui qui donne les informations et qui fait des affaires dans le monde entier. Donc ces trois personnages vont très bien s'entendre dans la traversée de Blanc et dans l'écriture de Blanc. Je vous repasse la parole, monsieur Ratier, et après nous écouterons Pergolèse, à moins que vous le préfériez écouter Pergolèse maintenant.
Non, juste de...
Alors, continuez, et après nous écouterons Pergolèse.
Juste deux citations pour terminer sur cet aspect de la philosophie du voyage, et je cite Sylvain Tesson, bien sûr, il dit « Le bonheur est dans la purge ».
Je ne l'ai pas noté, oui,
bonheur,
d'accord.
Et il dit « posséder, c'est s'alourdir ».
Oui, voilà. Alors là, je suis d'accord. Oui, il le dit, mais en même temps, il dit qu'il est amoureux des objets. Quand il rentre de ses grands voyages, il dit qu'il est amoureux, je pense, des beaux objets.
Oui.
Nous allons écouter, à la demande de M. Ratier, Pergolèse. Le début de Pergolèse, du Stabat Mater.
Oui.
Voilà. Stabat Mater de Pergolèse.
De Pergolèse. Je peux juste ajouter, en parlant de Pergolèse, pardon, il est mort à 26 ans.
Mon Dieu.
Et c'est sa dernière œuvre.
D'accord.
Stabat Mater.
Le Stabat Mater de Pergolèse.
Voilà, la Vierge au pied de la croix. À 26 ans, il allait mourir, mais il a composé cette admirable musique.
Merci. Je laisse l'écoute aux auditeurs.
Parole d'auteur. Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs, je reviens vers vous et je vais poser une question à Alain Ratier concernant le dernier livre de Sylvain Tesson, Blanc. Une question un peu de philosophie, car Sylvain Tesson, non seulement est un grand auteur, mais aussi il est philosophe. Alors, il écrit, page 95, « Le destin ou le chemin ?» Qu'en pensez-vous, Alain Ratier ?
Voilà, la passion chez Sylvain Tesson, dans les voyages, dans l'aventure, c'est la quête non dans l'effort, mais au-delà de l'effort, d'aller au-delà. C'est un face-à-face sans concession avec une recherche de transcendance de soi. Au-delà, je le répète, des capacités physiques. Il veut approcher le mystère du monde, son passé, son avenir, et essayer de répondre, si peu soit-il, à la question qui hantait, bien sûr, Arthur Rimbaud et après lui un Paul Claudel, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
Oui, il se pose des questions dans le livre, on le sent tout le temps. Ça n'est pas envoyé, c'est réflexion et humanité.
Voilà. Donc il part sur tous les chemins du monde pour rapprocher, autant que faire se peut, la poésie du monde, la réalité du mystère du monde, et donc celui de l'homme, bien sûr. On peut alors parler, non plus de voyage, mais d'aventure. Sylvain Tesson a compris qu'un exploit physique, mental, aussi sensationnel soit-il, aussi exigeant soit-il, ne vaut d'être accompli que lorsqu'il devient une aventure, c'est-à-dire en y mêlant la spiritualité. Alors il faut citer bien sûr Charles Péguy qui disait « Il n'y a d'aventure que spirituelle. »
Tout le reste, c'est beau.
Tout le reste est exploit, mais il n'y a d'aventure que spirituel.
Ça change beaucoup le sens du voyage, ça.
Ça le transcende.
On n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de voyage.
Il n'y a plus de voyage.
Donc ne cherchons plus le voyage, mais cherchons l'aventure.
Exactement. Alors c'est d'autant plus intéressant que Sylvain Tesson, on le sait, est athée. Hein, il le dit.
Oui, mais enfin, c'est vrai, il le dit, mais en réalité, sa recherche est tellement profonde que je me suis posé beaucoup de questions. Je ne le trouve pas tellement athée, voilà, puisque je le sais et en même temps, je ne sais pas. Parce qu'à un moment, il dit, que font les humains qu'est-ce que les humains ont besoin de regarder le ciel ? Donc ça, c'est une phrase d'athée, mais en même temps, dans le livre, je trouve tout le temps qu'il est en recherche, en quête de l'essentiel.
Bien sûr, et cela me fait sourire un petit peu parce qu'il a une expression très amusante, « ni Bourdieu ni maître ». Dit-il.
Ah,
ni
bon oui.
Dieu, ni maître. Alors, ça veut dire qu'il a une répulsion contre toutes les institutions humaines.
Oui.
Et pour
il est
lui,
au-delà.
Je pense que l'Église en fait partie, même si elle est autre chose, mais c'est quand même une institution. Mais la spiritualité, oui, il y baigne.
Il y baigne.
Il y
ouais.
baigne. Hein, mais je parlerai de spiritualité, pas de sacré. Mais pour revenir à ce que vous venez de nous préciser, c'est extraordinaire parce que les gens qui se disent athées, ils ne font que parler de Dieu.
Oui, 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 oui.
c'est ce que disait Marguerite Duras, qui, Dieu sait si, en fidèle communiste, elle refusait toute transcendance et tout Dieu. Elle disait, le problème avec Dieu, c'est qu'il n'existe pas, ça c'est sûr, mais j'en parle tout le temps.
Et hier soir, André Comte-Sponville n'a parlé que de lui, à la télévision, voilà. Donc à la grande librairie. Donc c'est aussi intéressant, c'est voilà. encore un exemple.
Il y en a un autre aussi qui est très, très mode également, c'est Michel Onfray.
Oui, oui, oui,
voilà,
absolument.
Sa religion, c'est l'athéisme, mais enfin, il en fait un dieu de son athéisme. C'est
oui,
extraordinaire.
Et en fait, il recherche aussi.
Oui, et, mais bien sûr, c'est la voilà. traduction même d'une recherche et de gens au moins qui ne sont pas figés dans des certitudes.
Tant qu'on est en recherche, comme c'est passionnant.
Oui, exactement. Mmh. Et donc, voilà, Sylvain Tesson, il cherche tout ce qui résonne en nous, nous interroge, nous déstabilise et nous comble à la fois. C'est à la fois cette recherche, on est déstabilisé et aussi comblé dans l'aventure qu'il vit.
Alors, moi, je ne dirais pas vraiment déstabilisé, parce que cet exploit physique qui est vraiment incroyable, on a tout le temps l'impression qu'ils peuvent mourir d'une avalanche, d'un ski qui glisse.
C'est vrai.
En réalité, il y a un bonheur qui transparaît derrière ces efforts, et derrière cette amitié, et derrière cette louange qu'il rend au blanc de la neige. Au début, quand on commence au livre, on se dit « oh là là, le blanc, le blanc, le blanc ». Mais en réalité, le blanc n'est-il pas un prétexte pour dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense ? Et en fait, à peu près à la troisième page, il y a une citation de Shakespeare qui dit « Où va le blanc quand fond la neige ?» Donc déjà, finalement, on a une petite étincelle en se disant « ça ne va pas être un exploit physique, c'est bien au-delà. »
Voilà, ben vous fournissez une magnifique introduction à quelques citations que je voudrais faire de
bien
blanc
sûr, bien sûr.
Et qui répond parfaitement à ce que vous venez de dire. Je cite, hein, la Sylvain Tesson, dans blanc. Le séjour dans un paysage de neige est une saignée de l'âme.
D'accord.
On sait déjà où on va, là.
Oui, hein, oui.
Alors, dit-il, s'opère l'éclaircie de l'être dans le lavement du regard.
D'accord, magnifique aussi.
Magnifiquement dit et vraiment profond.
Oui.
Je continue. La neige annule l'imperfection.
Oui, ça je l'ai bien noté aussi. Oui, c'est très surprenant.
Rehausse ce qu'elle touche.
Oui.
Le blanc total, c'est l'unification du monde. Totalité et grand oubli disparaissent alors toute ambition et toute nostalgie.
Oui,
voilà.
C'est, là,
c'est la philosophie de blanc.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Et moi je l'ai noté aussi. Oui, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Oui.
Alors, sans abuser, mais écoutez, quand on lit Sylvain Tesson, on n'est jamais rassasié, dont je le cite toujours, « La neige recrée le monde, chaque hiver, même genèse. »
Oui.
Même genèse. « Le blanc me montait dans l'âme, la matière devenait une pensée. » Aussi, c'est là vraiment oui. sa philosophie de oui. ce périple qui a été difficile.
Oui.
Et je pense, je reviens quand même en disant qu'il a déstabilisé aussi, parce qu'il a eu peur, il le dit.
Ah, il y a eu des peurs physiques,
il a eu
terrible.
Des peurs physiques en disant, son fameux compagnon qui dirigeait la manœuvre...
Du lac.
Qui est un des plus grands, paraît-il, alpinistes au monde.
Oui.
Et il disait, mais Lizzie, il faut revenir, on retourne, on ne va pas passer.
Il n'a jamais lâché du lac.
Et voilà, sauf une fois. Et là, bon, j'ai peur.
Et d'ailleurs, il dit, c'est ça l'amitié aussi, c'est suivre. Donc il a fait confiance à Dulac, même si quelquefois il pensait qu'il était fou.
Exactement.
Mais ils sont vraiment... Et Dulac respire aussi quelque chose de fort et puissant. Il donne confiance.
Oui, on le suivrait n'importe où.
Oui, on le suivrait n'importe où.
Ouais, ouais,
Dulac, ouais. C'est l'instinct, la réflexion, bien
oui,
sûr.
La réflexion.
Parce que...
Et la force mentale.
La force mentale. Et l'amitié. L'amitié. Parce que quand Sylvain Tesson perd ses skis et qu'il doit aller le chercher alors qu'il est seul, il n'y a pas encore le troisième larron, il faut quand même qu'il s'encorde tout seul. Et, parce que Sylvain Tesson est moins vaillant que les deux autres, même s'il est très vaillant. C'est au péril de sa vie, plus ou moins. Et en fait, il y va et jamais on ne sent d'amertume, ni de rancœur, ni tout est fait dans l'amitié. C'est aussi un très bel éloge de l'amitié, ce livre. Est-ce que vous voulez nous parler aussi un petit peu de l'humour de Sylvain Tesson ? Parce que moi, j'ai noté page 119, je vais vous faire... Alors, moi, je suis beaucoup moins calée que M. Ratier notre auteur Sylvain Tesson. Je n'ai lu que deux ou trois livres de Sylvain Tesson. Mais alors, j'ai découvert dans ce livre qu'il avait beaucoup d'humour. Et page 119, j'ai trouvé qu'il y avait une expression qui était très drôle. Quand il parle, au dernier col, le Cervin, apparu dans ses proportions définitives, Dieu, qui est suisse, dit Sylvain Tesson, avait modelé ce sommet selon le nombre d'or pour enluminer les emballages de Toblerone et prouver à l'univers la perfection helvétique. Je trouvais que c'était quand même charmantement dit.
Oui.
C'était quand même très amusant. Et puis alors, page 126, j'ai encore une expression qui est très drôle, pleine d'humour, avec légèreté et finesse. Visiblement, Sylvain Tesson n'aime pas beaucoup les psys. Alors, quelques psychanalystes associaient les visions de la blancheur à une hallucination morbide, exprimant le souvenir d'un manque maternel. Or, dans tout le livre, vraiment, il n'y a jamais fait allusion à ça. C'est Sylvain Tesson qui parle donc des psychanalystes et de leur vision du blanc. D'autres, à un désir d'absence, de suspension du lien social et d'effacement. En somme, l'amour du blanc, écrit Sylvain Tesson, l'amour du blanc total, trahirait la tentation douloureuse de l'annulation, Il me les brisait, ces sexologues austro-dépressifs. Il y avait une jouissance plus qu'une souffrance à imaginer sa dématérialisation. Mieux, il y avait une joie. Qu'en penses-tu, mon ami du lac ? Et du lac répond, les psys devraient faire du ski. Voilà, ce qui est quand même assez amusant. Et j'en ai encore d'autres parce que... Ah oui, il compare aussi l'alpinisme, page 173, à un plaisir de vieille dame. Évidemment, c'est une... À peine les skis rangés, page 173, Sylvain Tesson nous dit à peine les skis rangés quand ils sont dans les refuges. Le thé à la violette chauffé sur le réchaud et du lac, mon ami disait, l'alpinisme est une alternance quotidienne entre la vie de sportif et la vie de vieille dame. C'est vrai que dans les refuges, ils passent leur temps à boire du thé parce que c'est indispensable de s'hydrater après les efforts hallucinants qu'ils font, les efforts physiques qu'ils font. Je vous redonne la parole, Monsieur Ratier, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai parlé de l'humour de Sylvain Tesson, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, peut-être plus profondes sur le philosophe et l'homme qu'est Sylvain Tesson. Alors je rappelle à nos amis, quand même à nos amis auditeurs, que Sylvain Tesson a eu un très très grave accident, je le rappelle, et qu'il y a un exploit physique à réaliser ce qu'il fait. C'est un exploit physique pour Dulac et Rémoville, mais c'est encore plus un exploit physique pour lui, qui a eu un accident où on a cru qu'il allait mourir. Et en fait c'est sa volonté et son désir de vie et son amour de la vie qui l'ont redressé. Voilà. Donc c'est un exploit physique et un exploit philosophique et un exploit humain. Je vous redonne la parole, Alain Ratier.
Voilà, alors je partage bien sûr ô combien ce que vous venez de dire, en particulier sur l'humour. Il y aurait vraiment des pages et des pages à citer de lui. Et cet humour, cela veut dire beaucoup de choses, hein, bien sûr.
Oui.
Ça veut dire d'abord le recul qu'il a sur oui. lui-même. Sur les choses, et on ne peut avoir, à mon avis, de l'humour sur soi-même ou sur autrui que si l'on a une profonde interrogation de soi et du monde.
Le véritable humour, c'est ça.
C'est cela. Hein,
Le véritable humour,
c'est cela.
Je suis bien d'accord.
Et dont je rebondis à partir de l'humour sur Sylvain Tesson, qui est doté d'une culture
immense,
réelle.
Le livre est truffé de citations qui voilà. tombent merveilleusement bien.
Et tous les livres qu'il a écrits reproduisent.
Oui, vous le confirmez, il n'y a pas que dans ce livre.
Et alors c'est une culture qui est d'autant plus profonde qu'elle est sans ostentation, sans étalage.
Oui.
Et les citations qu'il fait, elles sont là quand il faut, où il faut.
Et elles tombent avec légèreté.
Exactement. Et donc, y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il ne parle jamais de musique. Ça m'étonne parce que pour un homme qui lit beaucoup, qui adore la solitude, il a traversé toutes les contrées les plus désertiques du monde et il ne parle jamais de musique, ce qui m'a toujours un peu étonné, mais bon... Je cite une œuvre. Été avec Homère. Il faut lire. Il est parti il y a 2-3 ans. C'était, je crois, même pendant le confinement. Il est parti s'installer sur une petite île des Cyclades et il a relu Homère.
D'accord.
Et il y a 100-150 pages où il projette sa culture, sa compréhension et les leçons que Homère nous a laissées. Et qu'il applique à notre monde, notamment.
Et ils sont toujours d'actualité.
Et qui sont
ce grand philosophe grec est toujours d'actualité.
Toujours. Et c'est une œuvre exceptionnelle.
Oui, sûrement.
Et donc cette culture et ses connaissances aiguisées, il les met au service donc, d'une analyse de notre monde, de notre civilisation. Et là, il est sans pitié. Il est sans pitié.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué dans le livre, mais c'est quand même dit avec une certaine gentillesse. Il n'y a aucune agressivité vulgaire.
Non, aucune, ni facilité.
Oui,
et...
mais il se moque bien de nous.
Voilà. Mais alors avec une justesse dans le regard, là aussi encore quelques pépites, hein, je cite toujours donc Sylvain Tesson, « La silicolonisation ». Est une conspiration contre toute vie intérieure.
Donc il fait allusion à la Silicon Valley, Donc, est-ce que vous pouvez relire votre citation, Monsieur Ratier ?
La silicolonisation.
Donc, la silicolonisation, donc c'est un mot qu'il a inventé. Donc, ce qui vient de la Silicon Valley, je vous écoute.
Voilà, et donc il dit, puisque c'est vraiment une œuvre mondiale, et il dit c'est une conspiration contre toute vie intérieure.
Alors, moi je vais faire une citation grand public, parce que moi je n'ai pas votre culture. Je signale que les grands chefs de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants de se servir de portable. Donc ça va quand même dans le sens de Sylvain Tesson, et ils se rendent compte des dangers incroyables du portable.
Exact.
Je vous redonne la parole sur la siliconisation.
Je ne le répéterai pas parce que c'est difficile.
C'est très difficile à dire, mais c'est quand même bien vrai. Et l'abrutissement dû à tous ces portables et à tous ces...
D'ailleurs, j'ai encore donc quelques citations parce qu'elles répondent parfaitement à ce que vous venez de dire. Il dit « Internet, c'est une épilepsie mondiale ».
Oh, c'est extraordinaire.
Une épilepsie mondiale.
Oh là là, c'est extraordinairement bien dit. Et que c'est beau. Alors, moi je dirais, le grand public dit la googlisation des gens, pour dire qu'ils deviennent complètement, non pas gaga, mais Google.
Mais Google.
Et lui, il parle de crise d'épilepsie mondiale. C'est plus mieux dit, mais ça veut bien dire la même chose. Donc, il n'est pas le seul à penser ça.
Pendant le confinement, il a dit, vous voulez... explorez vos confins, ouvrez des livres. Devant un écran, vous serez deux fois confiné.
Ah, que c'est bien dit.
Deux fois confiné devant un écran.
Que c'est bien dit et que c'est vrai.
Et que c'est vrai, et que c'est vrai.
Et reprenez un crayon et un papier, chers amis auditeurs. Quand vous lisez un livre, prenez des notes. Ou même écrivez dans la marge du livre. Moi, je me l'autorise, et beaucoup de grands auteurs l'ont fait, pour vous rappeler ce qui vous a touché. Lisez, écrivez, revenez à ça.
Alors, je cède encore à quelques citations. L'aménagement du territoire, dit-il, fait par les énarques. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse. Maintenant, on ne parle que de territoire. On ne parle plus de la France, on parle du territoire. Alors, il dit l'aménagement du territoire, donc, fait par des énarques, C'est la pollution du mystère.
C'est la pollution ?
Du mystère. Du mystère de la vie, du monde.
Ah, ça, voilà une idée originale,
voilà.
Oui.
Vous aménagez le territoire, c'est-à-dire que vous tuez le mystère. Et alors là, je ne résiste pas, dans les chemins noirs, dont où il part vers la France profonde, et il parle des murets, des petits murets, bon... Il a cette phrase magnifique. Alors il dit les murets de pierre, bien sûr.
C'est d'autrefois, qui ont tous été démolis.
D'autrefois, qui ont été démolis.
Malheureusement, et qu'on va reconstruire.
Par l'aménagement du territoire.
Oui.
Alors il dit les murets. Alors là, dans ces chemins noirs qui sont abandonnés, heureusement, que l'homme n'est pas intervenu, l'homme moderne, j'allais dire. Alors il dit voilà, les murets, c'est l'art de la marqueterie bocagère. Il y a un génie de la haie qui séparait sans emmurer, qui délimitait sans opacifier, qui protégeait sans repousser. L'air y passait, l'oiseau y nichait, le fruit y poussait. À son ombre fleurissait la vie, dans ses entrelacs prospéraient des mondes. Magnifique.
Ah, c'est absolument magnifique. C'est magnifique. Il faut l'envoyer tout de suite au ministère de l'Agriculture. Et vraiment, c'est magnifique. Ça devrait être en citation dans la France agricole. Puisque maintenant, vous savez qu'on y revient. On s'est aperçu de la catastrophe que les hommes avaient faite.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez relire la première phrase ? Parce que moi, je vais la noter.
Alors,
séparer sans emmurer.
Alors, donc, art de la marqueterie bocagère. Donc,
art de la marqueterie
bocagère.
Bocagère, le bocage, oui.
Voilà, génie de la haie qui séparait sans emmurer.
Séparer sans emmurer, que c'était bien, oui.
Délimiter sans opacifier.
Oui, oui.
Protéger sans repousser. L'air y passait, l'oiseau y nichait, le fruit y poussait. À son ombre fleurissait la vie, dans ses entrelacs prospéraient des mondes.
Alors, chers amis auditeurs, vous voyez là quand même une parole d'une grande profondeur, magnifique, et en même temps compréhensible par nous tous. ce qui vous poussera, j'espère, à découvrir Sylvain Tesson, donc un homme philosophe humain que nous tous, nous pouvons comprendre. Je vous écoute, Monsieur Ratier, si vous avez encore des choses à me dire extraordinaires.
Par rapport à son intelligence et sa culture acérée sur notre monde actuel, je pense que je ne l'ai pas cité encore. Les nouvelles technologies sont des substituts à la vie. Les écrans, c'est un linceul sur le monde.
Oui.
Un linceul sur le monde.
Oui, oui, tout
Dieu
à fait.
Ils peuvent rendre des services, mais quand on en fait les nouveaux dieux, eh ben c'est un linceul.
Je suis entièrement d'accord, oui. C'est vrai.
Et enfin, et là aussi ça répond à une préoccupation de nos jours, il ne faut pas s'échiner à déraciner les choses si l'on n'a rien à replanter à la place.
Bien sûr.
Voilà,
bien
c'est
sûr.
Une évidence, mais quand on voit que l'on n'est plus capable de garder une croix, un calvaire et autres, il dit, mais d'accord, vous l'enlevez, mais vous le remplacez par quoi? Ben, par rien. Par rien.
Là, vous abordez un débat qui est terrible.
Hein, qui est terrible, mais...
Et si vrai.
Et si vrai.
Alors, moi, je voudrais vous poser une petite question. J'ai relevé à la page 128... quelque chose qui m'a fait tilt dans l'oreille, puisque j'ai interviewé ici à Radio Présence beaucoup de gens qui avaient aimé la montagne. Et ici, nous sommes à côté des Pyrénées, chers amis toulousains, et nous aimons tous nos Pyrénées. Et nous avons pas un fétichisme de nos montagnes, mais bon, et on entend souvent dire que la montagne, aller en montagne, faire des escalades, c'est quelque chose qui nous élève. Alors... Sylvain Tesson est très fin et a beaucoup d'humour, comme je vous ai dit, chers amis auditeurs. Et alors, il parle à un moment, à la page 128 du livre Blanc, affiché sur les murs, les biographes, les pères Gratien Volus et Bernard Gabiou, prêtre et guide de haute montagne, accueillaient le visiteur. Du lac, mon ami du lac, me dit, avec humour, un jour tu rentreras dans les ordres. Nous avons dit que Sylvain Tesson était athée, mais comme vous voyez, il est empreint de spiritualité et de recherche tout le temps. Et alors Sylvain Tesson répond, Dieu m'en garde. Et alors il écrit, les deux prêtres avaient élaboré des correspondances entre la vie religieuse et le métier d'alpiniste. Ces métaphores physico-mystiques avaient couru les millénaires. Rien ne ressemble plus à l'autel de Dieu que le sommet d'une montagne. Nous connaissions la chanson. Monter était une prière. La neige, un manteau de pureté. Le compagnon de cordée, un prochain idéal. Et la corde entre eux figurait le lien d'amour. Fais Seigneur que je marche, que je monte vers toi par les sommets, disait la prière du pèlerin de la montagne. Ces analogies, écrit Sylvain Tesson, étaient fines comme un remonte-pente. Je les préférais aux théories psychanalytiques de la dissolution blanche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après tout, dans le jeu des interprétations et des concordances, la sainteté de la neige avait plus de noblesse que son éclat morbide. Voilà, chers amis, c'est assez amusant que Sylvain Tesson parle de ces analogies fines comme un remonte-pente. Voilà, pour vous citer encore... et vous donner envie encore de lire ce livre. Parce que c'est bien de se poser des questions et de ne pas répéter tout ce qu'on entend. Voilà, vous avez donc plusieurs opinions. Ce que le public dit de la montagne et cette opinion de Sylvain Tesson, qui est un véritable alpiniste, un véritable montagnard et qui réfléchit énormément et qui est le fils de deux personnes qui ont passé leur vie à réfléchir. Donc ce Sylvain Tesson est le fruit en réalité de deux puissantes réflexions. Donc ce n'est pas le fils d'eux, c'est quelqu'un qui a vécu avec des gens très très profonds, mais en même temps il est profond lui-même, il n'est pas que le fils d'eux. Je tiens vraiment à lui rendre hommage. Je vous rends la parole, Alain Ratier. Qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter encore sur Sylvain Tesson? Parce qu'il me faudra quelques minutes à la fin de l'émission pour expliquer un petit peu encore à nos auditeurs ce que nous ferons bientôt à Radio Présence pour cette émission Parole d'auteur. Je vous redonne la parole.
Bien, bah écoutez, je crois que pour conclure, on peut dire qu'il y a chez Sylvain Tesson un art de bien écrire. Hein, je crois que vous en êtes convaincu après ce que l'on vient de dire, et que sa recherche de la poésie du monde est très palpable. Et donc, il nous permet d'approcher, comme nous le cherchons, le mystère du monde. Et comment mieux terminer que par des citations, hein, laissons parler le maître, dans les forêts de Sibérie, dont je recommande la lecture, qui est vraiment magnifique. Il dit « Le soir est un songe qui ment ». Parlant des reflets de la forêt, des montagnes sur le lac Baïkal, il dit « Les reflets sont plus beaux que la réalité. L'eau féconde l'image de sa profondeur, de son mystère. La vibration à la surface situe la vision aux lisières du rêve. » Ça m'avait beaucoup marqué, et il y a des passages dans les forêts de Sibérie magnifiques sur lorsque la glace commence à fondre, et donc il y a ce cristal qui s'irise, et c'est d'une poésie, c'est magnifique, on ne peut pas tout citer.
Et il explique bien d'ailleurs dans Blanc, il a repris cette idée dans Blanc, où il dit que le meilleur des photographes et le meilleur des appareils ne pourraient pas arriver à fixer cette étincelle de beauté.
Non.
Donc il le redit dans Blanc, cette belle image de la beauté, il ne peut pas se saisir. Sauf en peinture, d'ailleurs, ajoute-t-il, seul un peintre pourrait l'attraper.
Exactement, oui.
Le saisir.
Citons encore Sylvain Tesson, « La chaleur emmagasinée par le calcaire et l'odeur de la lumière. »
Ah, l'odeur de la lumière.
Lorsque vous faites une randonnée en fin de journée où le soleil a tapé sur certains rochers, notamment bien sûr sur le calcaire, vous avez une odeur.
Vous l'avez ressenti aussi.
Moi, je l'ai ressenti, mais jamais j'aurais ajouté que c'était l'odeur de la lumière. Et pourtant, c'est ça, c'est tout simple. Mais encore faut-il associer les deux.
Vous êtes très proche de Sylvain Tesson, alors.
Oui.
Oui, c'est une très belle image, là, ressentir la même chose que lui, qui est un poète.
En toute simplicité, pour ma part.
Okay. Non, c'est d'une grande poésie.
C'est une grande poésie. Il est bien terminé par le poète. Le merveilleux reflet spirituel des éclats du réel.
Ah oui,
Le merveilleux reflet spirituel des éclats du réel. L'ombre, mélancolie de l'arbre.
D'accord.
L'ombre, c'est la mélancolie de l'arbre.
C'est un poète. Voilà. C'est un poète avec des mots simples, chers amis auditeurs. C'est un mot simple. Donc, chers amis auditeurs, vous pouvez le lire, parce que quelquefois, nous avons des écrivains qui font de la très grande poésie, mais qui sont difficiles à saisir. Tandis que là, c'est vraiment... Tout le monde peut comprendre.
Je crois en la mémoire des pierres qui incorporent les odeurs des hommes et l'écho des pensées.
Oui, très joli aussi.
Et enfin... Le silence, mais là c'est une évidence, le silence est une marque de civilisation. Et quand on voit aujourd'hui l'envahissement du bruit, vous ne pouvez pas rentrer dans un magasin sans qu'il y ait une musique agressive, comme si on avait peur d'une minute, même pas de profond silence, mais de silence, un silence tout court. Et là c'est la marque d'une civilisation, et j'avoue que nous pêchons beaucoup... par manque de silence.
C'est exact.
Voilà. Enfin, je vous remercie d'avoir parcouru cet ouvrage qui est vraiment magnifique.
Je vous remercie de me l'avoir fait connaître.
Oui,
C'était un bonheur. Alors, je voudrais conclure par une citation que fait Sylvain Tesson d'Alexandra David-Nel, qui est quand même aussi une femme hors du commun, tout comme lui. Alors, cette citation, c'est « Approchez-vous, les difficultés s'estompent. Une fois en route, tout se simplifie. » Voilà, ça rejoint la philosophie de Sylvain Tesson, deux grands personnages de notre littérature. Alors, je vous remercie, Alain Ratier, d'être venu partager votre amour pour ce grand auteur que finalement est Sylvain Tesson, qui n'est pas qu'un personnage... grand public, finalement. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut découvrir, qu'il faut lire. Voilà. Et alors, je voudrais en profiter pour dire à nos amis auditeurs qu'il y a maintenant une autre possibilité de participer à l'émission. Et M. Ratier a été le premier, depuis quelque temps, à participer à cette nouvelle formule. Si vous avez un livre récent que vous avez énormément aimé, vous pouvez m'écrire à contact@radioprésence.com, Bélita de Bangy, ou tout simplement Bélita, contact@radioprésence.com, et vous me citez un auteur récent que vous venez de lire, et nous nous retrouvons un petit peu avant pour en parler. Je lis moi de mon côté le livre et je vous poserai des questions sur cet auteur qui vous a plu, qui vous a enthousiasmé, et ainsi nous pourrons le partager avec nos amis auditeurs de Radio Présence. Alors je peux proposer à nos amis auditeurs un auteur que j'ai beaucoup aimé, que vous devez tous aimer aussi, qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt et qui a écrit « Le défi de Jérusalem » que je voudrais lire. Et s'il y a des amis auditeurs qui voudraient partager cette lecture avec moi dans la prochaine émission que je ferai de Paroles d'auteur, vous pouvez donc m'envoyer un message, je vous contacterai et nous pourrons parler par exemple du dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, qui me paraît un livre aussi passionnant. Chers amis auditeurs, merci beaucoup et merci Monsieur Ratier.
C'est moi.